VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
17h à Abidjan, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité, le président tunisien Béji Caïd et ses psys et le président français François Hollande ont exprimé leur solidarité face au terrorisme après les attentats commis en France et en Tunisie, selon un communiqué de la présidence française. Les deux présidents veulent aussi poursuivre et intensifier leur coopération dans la lutte contre ce fléau. Vendredi, une personne a été décapitée lors d'un attentat commis en France contre une usine de gaz industriel, tandis qu'en Tunisie, au moins 28 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans la station balnéaire de Sousse. Et de nombreuses victimes en Tunisie sont des touristes étrangers qui étaient en vacances dans cette station balnéaire située dans le sud de la Tunisie. Plus de détails avec Nicolas Pinault.
Oui, cette attaque est d'ores et déjà le pire attentat de l'histoire récente de la Tunisie. Un homme armé a ouvert le feu dans un hôtel. Il est entré par la plage habillé comme quelqu'un qui allait se baigner et il avait un parasol avec dedans son arme. Puis arrivé à la plage, il a utilisé son arme, a indiqué le secrétaire d'État aux affaires sécuritaires Rafik Chelis sur la radio tunisienne Mosaïque FM. L'auteur présumé de cet attentat sanglant serait un étudiant originaire de la région de Kairouan, inconnu de la police. C'est une attaque terroriste contre un hôtel, l'auteur de l'opération a été abattu. Mais il pourrait y en avoir plus, selon Mohamed Ali Haroui, ministre tunisien de l'Intérieur. L'attentat de ce vendredi compromet fortement l'espoir pour la Tunisie de renouer cet été avec le tourisme en provenance d'Europe, un poumon pour l'économie, 3 mois seulement après l'attaque contre le musée du Bardo qui avait tué 21 touristes. Cet attentat intervient à quelques jours du lancement de la saison estivale, dans un pays où le tourisme représente environ 7% du PIB et quelques 400 000 emplois directs et indirects. Sur les lieux de l'attaque de Sousse, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a déclaré à l'AFP que la Tunisie ne peut faire face seule à la menace djihadiste et demande la mise en œuvre d'une stratégie globale contre le terrorisme.
Et puis, en Afrique, le secrétaire général, et au Burundi plus particulièrement, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé aujourd'hui les autorités burundaises à reporter des élections prévues à partir de lundi. En raison du climat politique et sécuritaire qui règne dans le pays, l'appel du secrétaire général de l'ONU intervient quelques heures seulement après que l'ensemble de l'opposition burundaise ait annoncé le boycott du scrutin. Salwa Jaafari.
L'ONU se joint aux voix dissidentes. Ban Ki-moon demande au gouvernement burundais de mettre en veille les élections et de prendre sérieusement en considération la proposition de l'équipe internationale pour faciliter un éventuel report, car la paix dans le pays en dépend. Le Burundi est secoué par une grave crise politique depuis l'annonce fin avril de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Le secrétaire général a appelé tous les leaders politiques burundais à résoudre la crise actuelle par le dialogue dans l'intérêt du peuple, au moment où l'opposition a décidé unanimement de boycotter les élections. Ban Ki-moon a d'ailleurs demandé à la société civile de suivre le même exemple. Les opposants de Nkurunziza jugent que sa volonté de briguer un nouveau mandat est anticonstitutionnelle et contraire à l'accord d'Arusha qui avait ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile burundaise.
En Somalie, au moins 70 soldats de l'Union africaine ont été tués dans une attaque menée ce vendredi par des islamistes d'Al-Shabaab contre une base militaire de l'Union africaine dans la ville de Ligo, dans le sud du pays. L'information a été confirmée par les autorités somaliennes dans une déclaration à la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide.
L'assaut a débuté avec une attaque à suicide à la voiture piégée sur l'entrée de la base militaire, d'après des témoins, avant que des combattants d'Al-Shabaab, armés de mitraillettes et de lance-grenades, n'ouvrent le feu sur les troupes burundaises qui tenaient le complexe. La violente attaque aura duré plusieurs heures. Un porte-parole d'Al-Shabaab a déclaré que le groupe somalien a tué plus de 50 soldats de l'UA et s'est emparé de la base et de la ville de Ligo. 20 autres soldats burundais, de même que 40 civils somaliens, sont portés disparus et il y a des craintes qu'ils aient été enlevés. Le gouverneur de la région de Bachabel a confirmé que les forces de l'UA ont subi des pertes importantes, ajoutant que des dizaines de combattants d'Al-Shabaab ont également été tués. Avec les troupes ougandaises, les soldats burundais forment la force de 22 000 hommes de l'AMISOM.
Plusieurs centaines de réfugiés érythréens ont manifesté aujourd'hui devant le siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour dénoncer la situation dans leur pays. Selon l'ONU, les violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme en Érythrée poussent quelque 5000 Érythréens à fuir leur pays chaque mois. La justice angolaise a placé en détention provisoire 15 jeunes activistes arrêtés samedi dernier et accusés de vouloir renverser le président José Eduardo dos Santos. Selon la justice, ces jeunes voulaient provoquer une insurrection en installant des barricades et en brûlant des pneus à Luanda. Et puis au Bénin, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir leurs représentants dans les conseils communaux et locaux. Plus de précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludogivic Dagba.
La bataille pour les municipales, communales et locales béninoises égrène ses dernières heures. Et les différents partis politiques et alliances de partis politiques en compétition dans chacune des 77 communes que compte le Bénin usent d'arguments pour convaincre les électeurs à leur accorder dimanche prochain leur suffrage. La bataille se promet d'être rude dimanche prochain à Cotonou et dans les autres communes du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité dans le reste du monde. Ici, aux États-Unis, décision historique aujourd'hui de la Cour suprême sur le mariage homosexuel. Désormais, deux personnes de même sexe ont le droit de se marier partout dans le pays. Jusqu'ici, seuls 36 États et Washington DC reconnaissaient ce droit aux gays. Réagissant à cette décision, le président Barack Obama a écrit sur Twitter que ce jour constitue une étape importante dans notre marche vers l'égalité. Les couples de gays et de lesbiennes ont le droit de se marier tout comme les autres, a déclaré M. Obama. Il s'agit là de la plus grande décision sur le mariage aux États-Unis depuis que la Cour suprême avait jugé inconstitutionnelle l'interdiction du mariage interracial. C'était en Virginie en 1967. Le président Barack Obama qui va également aujourd'hui prononcer à Charleston en Caroline du Sud l'éloge funèbre du pasteur africain-américain Clementa Pinckney, tué dans son église avec 8 autres paroissiens noirs par un jeune blanc suprémaciste. La semaine dernière, le révérend Pinckney était aussi sénateur au Parlement local sud-carolinien, le plus jeune africain-américain à avoir jamais été élu à ce poste. Madame Obama ainsi que le vice-président Joe Biden et son épouse assisteront également aux funérailles du pasteur Pinckney. En Syrie, au moins 120 civils ont été tués par le groupe État islamiste à Kobané depuis le lancement jeudi dernier de son attaque surprise contre cette ville syrienne kurde à la frontière kurde. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis au moins 13 personnes sont mortes et 25 ont été hospitalisées aujourd'hui dans un autre attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique, mais cette fois contre une mosquée chiite au Koweït, pendant la grande prière du vendredi. Au Yémen, deux hommes à moto ont tué à bout portant un commandant local de la milice chiite houthi à Sana'a, la capitale, pendant que pour les rebelles chiites, eux, pilonnaient des quartiers résidentiels et un centre médical à Aden. Le secrétaire d'État John Kerry est parti aujourd'hui pour Vienne, où les négociateurs ont en principe jusqu'au 30 juin pour arriver à un accord définitif sur le nucléaire iranien. Doivent se joindre à lui à partir de demain ses homologues du P5+1 et l'Iran. Monsieur Kerry est toujours en convalescence après s'être fracturé le fémur droit en chutant en vélo fin mai en France. L'objectif est de garantir que le nucléaire iranien est uniquement à des fins pacifiques. Création de centres de tri pour les réfugiés et accélération des expulsions pour les recaler au droit d'asile. Les dirigeants de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, ont durci le ton, menaçant la libre circulation dans l'espace Schengen. C'est ce que rapporte l'AFP. Quelques 120 000 personnes sont arrivées depuis le début de l'année, affluent pour beaucoup des côtes libyennes. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir. Le Monde Aujourd'hui, présenté par Morgane Guiriec et Idrissa Sedoudia. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.